Nous avons donc par satellite Laurel, autrice de bande dessinée, designeuse de jeux mobiles, conceptrice du logo de Docker, et oui, la baleine avec les containers, c'est elle, et créatrice du blog BD Comme Convenu, récemment auto-édité en papier. CPU carré petit utile. Bonjour Laurel, merci de nous rejoindre avec Hermione.
Bonjour, merci beaucoup.
La première fois que je t'ai interviewé, donc c'était à Angoulême en 2008, et c'était à l'époque pour le deuxième tome du journal de Carmilla. On vient d'en entendre quelques extraits. Que s'est-il passé entre-temps ?
Juste pour clarifier, c'est pas moi le logo de Docker. Moi, je fais un petit dessin de BD de la baleine. Voilà. Après, le logo a été fait avant que j'arrive dans la boîte.
En fait, t'es plus l'artiste in-house, quoi.
Oui, voilà, je donne une image un petit peu comics et tout ça. C'est une idée de Salomon Hikes, qui est le fondateur de Docker, mais le logo, il était là avant. Il est bien, d'ailleurs, ce logo.
Ouais, moi, oui.
Je prends les personnages en faisant des petits dessins rigolos, quoi.
Ouais, moi, je trouve que ça ressemble vraiment justement un peu à la philosophie qu'a GitHub avec l'Octocat.
Ouais.
Donc,
ouais, c'est ce que vous voulez, Salomon. Ouais,
justement, on t'avait quitté en janvier 2008. Que s'est-il passé entre-temps ?
Oh là là, depuis Carmilla. Alors, j'ai fait une série qui s'appelle Cerise au Lombard. Il y a 3 tomes. Et ça raconte une histoire qui se finit. Mais surtout, entre-temps, donc, je suis partie en Californie pour monter une boîte de jeux vidéo. Et ça s'est plutôt mal passé avec les personnes... avec qui j'ai monté la boîte. Et une fois sur place, en fait, en gros, pour résumer, ils ont fait du chantage au papier parce qu'on dépendait de la boîte pour les visas, pour rester sur place. Or, on était venu avec toutes nos affaires, notre fille, etc. Donc, c'était un peu compliqué de repartir.
Et tout ça, on va y venir justement. On va le faire en plusieurs parties. Qu'est-ce qui fait que tu sois parti pour la Californie ?
On était allé en vacances. Pardon.
À tes souhaits.
Ouais, c'est le printemps. On était allés en vacances et en fait, ça nous avait vachement plu comme endroit. C'est vraiment comme dans les films, en fait. C'est très... La lumière, les gens sont vraiment super ici. L'architecture, c'est très, très, très beau comme pays. Ça fait rêver. Donc, en fait, quand on a monté la boîte et qu'il y a eu l'occasion de venir ici, on a sauté sur l'idée.
À quoi pensait la dessinatrice d'alors en préparant ses valises ? C'était de l'excitation ? C'était de l'a priori ? C'était des étoiles dans les yeux ?
Ouais, carrément. J'étais vraiment ravie de venir à San Francisco parce qu'il y a plein d'artistes que je suis sur Internet qui sont du coin. Et je trouvais que cet endroit était vraiment inspirant pour des illustrations. Mais j'avoue que depuis 4 ans que je suis là, en fait, j'ai pas eu le temps de me pencher plus que ça sur des dessins comme ça, pour le plaisir. On bosse tellement ici que j'ai pas vraiment eu le temps de faire des dessins pour moi et d'évoluer là-dessus. Donc, par contre, j'ai pu rencontrer des gens de Pixar, discuter avec eux, des gens qui travaillent chez Disney. Et c'est enrichissant d'avoir leur point de vue, de voir leur croquis. Mais moi, je me suis pas vraiment améliorée sur ce thème. Je dessine pas autant la Californie que je voudrais.
Alors, tu es parti aussi parce que ton copain était développeur iOS et vous êtes parti en plus. Il y a une fille aussi dans l'aventure, donc présente un petit peu la petite famille et le chat.
Ouais. Alors, donc on est parti avec. On s'est marié juste avant de partir avec Adrien, donc qui est développeur et qui a fait l'école des Gobelins. Voilà, lui il finissait ses études donc c'était sa première activité finalement de faire cette boîte et voilà, puis notre fille qui avait 12 ans à l'époque, 11-12 ans, et on l'a mise dans l'école publique direct en arrivant. En fait, on a choisi l'endroit où on allait, c'était pas San Francisco, c'était beaucoup trop cher. On a pris une petite ville en dessous et on l'a choisi en fonction des écoles, parce qu'ici les écoles sont notées sur 10, et cette information est publique, en fait. Donc, les gens choisissent où ils veulent vivre en fonction des écoles dans le coin. Et on l'a mise dans l'école publique direct, comme ça. Comme elle ne parlait pas anglais, on lui a dit « Débrouille-toi
!» Parents indignes.
Non, la pauvre, hein, la pauvre. Mais en fait, on a présenté les choses en disant « Oh là là, tu as tellement de chance, nous aimerions tellement être à ta place. » En fait, pas du tout. Moi. Et voilà, on lui a présenté les choses de façon super positive et elle n'a pas eu peur, bizarrement. Et à 12 ans, voilà, c'est super bien passé. Et 6 mois après, elle parlait anglais, quoi. Donc, aucun problème.
Waouh. Chris, tu peux dire la même chose hein, pour les tiens.
Ouais.
Pour le français, oui.
Ouais.
Quel a été le premier choc pour vous? C'était quoi? C'était le prix des loyers ou la prière dans les écoles?
La prière? Non, il n'y a pas de prière. Non, les jeunes...
Serment d'allégeance, oui.
Oui, d'accord. Non, on ne trouve pas ça choquant parce qu'on voyait dans les films et puis les bandes dessinées, donc on s'y attendait. Puis on ne juge pas de toute façon. Hein, en venant dans un pays étranger, on a bien dit à Cerise, tu ne critiques rien, tu ne juges personne. On n'est pas chez nous, quoi, donc on fait attention. Non, ce qui m'a étonnée, ce qui est affreux ici, c'est la nourriture. Hein, y a vraiment rien. C'est terrible. Ça, c'est ce qui manque vraiment de la France. C'est vraiment... On ne se rend pas compte de ce qu'on a en France avant de partir.
D'un autre côté, il y a beaucoup de Français qui sont lancés et qui donc sont installés dans la région de San Francisco et San Andreas. Ouais. Est-ce que vous les rencontrez?
Alors, au début, on se disait qu'on allait voir beaucoup de gens, beaucoup de Français pour faire des soirées jeux de société, etc. Et il s'avère que, en fait, dans la région, le truc, c'est, enfin, on s'y attendait pas, on s'en rend compte au fur et à mesure, c'est qu'en fait, les gens ici travaillent tout le temps. Et quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Même moi, d'ailleurs, je cumule 2 jobs. Adrien, il rentre tard et tout, et c'est juste pour avoir de quoi payer le loyer, tellement la vie est chère. Et d'ailleurs, on pense pas à rester parce que c'est vraiment trop nul quoi, de vivre comme ça. Mais les gens travaillent énormément, et donc ils ont pas le temps. Donc on voit pas grand monde. Donc, on est un peu, isolé. Ça, c'est pas très différent de si on vivait à la campagne, quoi. On est près d'un petit centre-ville et tout ça, donc on peut y aller à pied. Mais ouais, il y a pas vraiment d'échange avec des Français sur place. Enfin, pas autant qu'on voudrait, en tout cas.
Ouais, c'était ce que, puisque là en ce moment il y a le South by Southwest à Austin, où il y a eu une conférence où quelqu'un disait qu'il y avait une culture de bro et tellement drogué au travail qu'il disait quand je travaillais chez Facebook, j'entendais les mecs taper du clavier pendant qu'ils étaient aux toilettes.
Ouais.
C'est assez.
C'est quelque chose à faire pendant une période de la vie. Et je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui font ça vraiment tout le temps, quoi. Surtout, enfin, nous, comme on a des enfants, là, on a un bébé, on se pose la question de savoir, voilà, quelles sont les priorités. Est-ce qu'on va continuer à se tuer à la tâche comme ça? C'est pas sûr, quoi. On est en train de peser le pour et le contre. À se dire, voilà, rester ici, c'est génial. C'est vrai que c'est une région super, les gens sont formidables. Il y a de l'innovation. Quand on va au café, il y a toujours des gens en train de bosser sur des trucs intéressants. On peut parler avec eux. C'est très enrichissant, mais par contre, c'est la course tout le temps. Et pour avoir des enfants, voilà, est-ce qu'il ne faut pas plutôt prendre le temps de vivre un peu? Je ne sais pas.
Toi-même, particularité dans ce milieu d'entrepreneur et de développeur, donc tu es une dessinatrice qui a été éditée en France, qui est allée dans les festivals internationaux. Et il paraît que Jim Davis, l'auteur de Garfield, a apprécié ton travail.
Ouais, bon, je pense qu'il apprécie le travail de plein d'auteurs. Hein,
mais... Cette question, je l'ai écrite il y a quelques mois, et ce matin, donc, tu as posté une planche de ta BD où tu expliquais que même, il vous a écrit une lettre.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu vraiment de la chance d'avoir cette lettre. En fait, on faisait un dossier de carte verte, et cette lettre a été, je pense, un élément clé du dossier. On a eu la chance de rencontrer Jim Davis, en effet, dans l'Indiana, en fait, on y allait. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'il avait quoi, peut-être 80 ans, plus de 80 ans. Et il était là, avec son téléphone, il regardait, il suivait tout. Et il était à la tête d'un petit empire, entre guillemets, parce qu'il est au milieu des champs de maïs, dans un énorme hangar pratiquement, mais perdu au milieu de nulle part, avec son équipe qui est la même depuis 20 ans. Et c'est un peu une petite entreprise qui roule tout seul. Il n'a pas d'éditeur, il s'est auto-édité aussi. Et il a capitalisé sur son personnage et il en a fait sa carrière. Et voilà. Donc aujourd'hui, tout roule pour lui. Il est à la tête d'un empire qui a une valeur énorme et il est seul à l'avoir. Parce qu'ici, le système des éditeurs est différent de la France. Il y a pas, on cède les droits à la boîte pour laquelle on bosse. Donc lui, il a préféré garder ses droits et travailler pour lui-même. Il faut avoir l'esprit pour ça. C'est pas évident.
Ouais. On parlait justement donc de la différence culturelle actée sur le travail, principalement la valeur travail dans les startups dans la Silicon Valley. D'un autre côté, il y a aussi une relation qui est un peu plus relâchée sur le terme sur l'aspect des gens. Et on se souvient d'une planche qui est restée célèbre où tu croisais Fleur Pellerin, qui à l'époque était ministre des PME, de l'innovation et de l'économie numérique. Et...
Ouais.
Je te laisse raconter la suite.
Alors en fait, François Hollande était venu discuter à San Francisco, faire un petit discours, où il disait aux Français expatriés, « Oui, vous, les entrepreneurs, je sais que vous allez revenir un jour en France, tout ça. » Et il y avait Fleur Pellerin avec d'autres ministres. Et comme c'était la ministre de la Culture, je crois, à l'époque ou...
Non, PME, Innovation, Économie Numérique, et elle a changé de poste, effectivement, trois mois après.
D'accord. Ouais. Donc, je me suis dit que peut-être notre projet pourrait carrément lui parler. Et donc, je me suis approchée d'elle, et en fait, elle... Voilà, j'ai pas rêvé. Elle m'a vraiment... Elle a regardé comment j'étais habillée, et quand elle a vu que j'étais pas habillée avec des fringues de marque, elle est allée... Directement, enfin, ça peut paraître bizarre, mais elle parlait qu'à des gens qui avaient l'air d'être riches et d'être importants. Et c'est vrai qu'ici, en fait, c'est ce qui est bizarre, c'est que dans la Silicon Valley, ça compte pas tout ça. Enfin, il y a des gens qui sont, par exemple, là dans la ville où on vit, il y a Jason Citron qui fait Discord en ce moment. Et il est à la tête d'une fortune énorme et il se balade en tongs et en t-shirt. On le croise des fois dans la rue. C'est... Voilà, Fleur Pellerin lui aurait jamais parlé, par exemple. Et, je sais pas, c'est un esprit différent. Ici, il n'y a pas de jugement sur l'apparence. Voilà. Alors, c'est l'impression vraiment que j'ai eue en essayant de lui parler et qu'elle m'a ignoré vraiment de façon très visible. Enfin, je ne me suis pas trompée.
Alors, est-ce que c'est vrai qu'on trouve plus d'écureuils dans les quartiers résidentiels que de data centers dans les garages actuellement?
Ouais, sans doute. Il y a des écureuils partout. C'est vrai qu'il y en a plein. C'est mignon d'ailleurs, je me lasse pas de les regarder. C'est vraiment chouette.
Et nous sommes donc avec Laurel, dessinatrice du blog BD Comme Convenu. Vous écoutez CPU sur Radio FMR. Laurel, juste une question parce qu'on vient donc d'en écouter un extrait. Est-ce que vous avez vu la série HBO Silicon Valley?
Ah, malheureusement, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup de bien. En fait, j'ai regardé que les deux premiers épisodes ou trois premiers épisodes et je n'ai pas accroché. En fait, voilà, peut-être qu'après ça s'arrange, mais j'ai trouvé ça pas du tout représentatif de la Silicon Valley. Faire des grosses fêtes dans des villas avec des piscines, machin, c'est pas du tout ça. Et surtout, j'ai trouvé que c'était. Ouais. Je suis pas extrémiste de ce point de vue-là, mais j'ai trouvé que c'était quand même vachement sexiste. Parce qu'il y a plein de nanas qui travaillent ici, vraiment. Et là, le seul personnage féminin qu'il y avait, en tout cas dans le pilote et les 2-3 épisodes suivants, c'était. Je me rappelle une prostituée, je crois. Enfin, ou des meufs dans des fêtes. C'est pas du tout ça. Ici, les femmes travaillent beaucoup dans la tech.
Alors, on a parlé justement de l'inclusivité la semaine dernière, de la place des femmes dans le numérique. Mais c'est vrai que c'était une remarque qui leur avait été faite parce qu'il y a une scène qui se passe lors du tech crunch. Et ils disaient, ouais. Mais il y a pas de, il y a plein de gens qui leur ont dit, mais il y a pas de femmes dans le public, etc. Ils disent, ah, mais nous, on a filmé vraiment le public qu'il y avait. Donc, après,
après la série, et par, enfin vraiment, moi je travaille chez Docker et je vois il y a plein de femmes.
Oui.
Et elles codent et tout, donc c'est pas réel leur truc. Ils sont pas obligés. Bien sûr, il y en a moins que des mecs, ça c'est vrai, mais ils n'étaient pas obligés de leur donner vraiment aucun rôle. Je suis pas pour imposer quand c'est faux, mais là clairement des femmes dans la tech il y en a ici. Donc
après c'est une comédie, hein, donc c'est un peu normal.
C'est
une comédie.
Donc, ça n'empêche pas que ça peut être un minimum crédible. Enfin, puis c'était des clichés, dire les mecs qui sont là, qui codent, qui vont dans des soirées, qui font la fête. C'est pas du tout représentatif de comment c'est ici en fait. C'est vraiment faux. Enfin, après, j'ai regardé les 3 épisodes, donc je sais pas.
On va venir justement à comme convenu. Donc, il y a eu un premier. Je crois que tu en es à pratiquement 500 planches de publier online en accès libre. Tu as fait un premier crowdfunding donc pour le premier tome. Là, on est en plein dans le crowdfunding du second tome. On va parler de l'histoire elle-même. Donc, les 6 associés que tu appelles Geoffroy et Luc. Comment en fait vous les avez rencontrés et vous avez décidé de monter une boîte ensemble?
Alors Adrien sortait de ses études et moi je faisais de la BD toute seule depuis 10 ans dans mon coin. Et en fait ensemble on avait fait un petit jeu pour iPhone parce qu'il avait appris à développer Gobelin pour ce support. Donc on avait fait un petit jeu sans prétention et comme c'était au début de l'iPhone, du coup il avait pas mal marché parce qu'il y avait peu de jeux, surtout qu'on a tout mis gratuit, on s'en fiche. Il y avait peu de jeux sympas sur iPhone, gratuits, etc. Donc en fait c'est comme ça qu'Adrien a été approché par ces deux mecs qui avaient beaucoup plus d'expérience dans le monde de l'entrepreneuriat. Et voilà, ils ont dit « Ah, on pourrait monter une boîte ensemble, etc. » Et donc ça s'est fait, et ça s'est plutôt bien passé pendant un an ou deux quand on était en France. Et après, on a levé de l'argent et on a décidé d'aller plus loin et qu'Adrien et moi, on partirait donc vivre dans la Silicon Valley pour être plus proches d'Apple, Google, etc. Parce que c'est avec eux qu'il faut parler et il faut être sur place. Sinon, on a aucune chance d'aller plus loin. Donc il fallait des gens sur place. Donc on est parti et voilà.
Alors.
Il y a de la musique derrière, vous entendez?
Oui. comme convenu, tout est dans le titre. Je suppose que tu as une liste de tout ce qui a été remis en cause. T'as dû faire une longue liste que tu dois cocher au fur et à mesure que tu l'as abordée.
Ouais, parce que dans la BD, je raconte même pas tout tellement j'avais pas la place. Mais en fait, ça s'est mal passé parce que donc ces deux personnes, au début, c'était très bien, c'était que des promesses, etc. Mais nous, on a été tellement bêtes, on a vraiment été naïfs. On n'a rien fait signer, on n'a rien enregistré. On s'est montré trop confiants, trop naïfs. Voilà, on les a crus sur plein de choses et. Et ça s'est retourné contre nous parce qu'au fur et à mesure, ils voyaient qu'en fait, on ne pouvait pas se défendre. Et ça s'est fait petit à petit quand même. Ils ont pris le dessus sur nous et en fait, on ne pouvait plus rien dire dans la boîte. Et ils avaient dit au départ, vous faites les jeux, nous, on ne s'occupe pas du tout de ça. Et finalement, ils avaient envie de tout contrôler. Donc, ils voulaient voir tous les détails des jeux. Et on n'avait aucun recours parce que dès qu'on disait, bah non, on n'est pas d'accord, là, ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Il nous faisait le chantage de on vous vire, vous rentrez en France. Et comme on n'avait pas du tout les moyens de. Enfin, on n'avait rien. En fait, on avait payé nous-mêmes le déménagement et on avait mis toutes nos économies dans la boîte. Donc, on n'avait plus rien. Et si on était rentré, on n'aurait même pas pu. En fait, on n'aurait pas pu même payer les billets d'avion. Donc, on était totalement coincés.
Et Laurel, c'est Chris. En Silicon Valley, on parle de l'importance des échecs pour gagner l'expérience et beaucoup de personnes portent l'échec comme un badge d'honneur. Vous sentez que l'expérience avec votre startup en Silicon Valley était un échec ou tu sentais différent pour le résultat de le temps avec la startup?
En fait, on voit pas ça comme on voit pas ces expériences comme un échec parce que ça nous a rendu plus fort entre guillemets. Enfin, ça nous a permis de ça nous a donné une bonne leçon qui est que maintenant on va se méfier des gens avec qui on s'associe si on s'associe avec d'autres personnes même si ça nous a un peu coupé l'envie. mais on va vraiment faire attention. On sait plus cerner les gens. On est devenu moins naïf. On s'est pris vraiment une claque. Et c'était aussi pour ça que je faisais cette bande dessinée sur ce sujet. C'est peut-être prévenir d'autres personnes qui auraient pu être, enfin voilà, qui auraient pu tomber dans le même piège, peut-être. Nous, ça nous aurait peut-être aidé de lire quelque chose comme ça avant pour éviter de faire des erreurs. Et j'espère que cette BD va aider les jeunes qui débutent. Ou, voilà. Mais on ne le voit pas comme un échec. Non, c'est pas du temps perdu. Ça nous aura quand même permis d'acquérir de l'expérience et puis de rester ici en Californie.
C'est juste une question pour vous hésiter écrire ou dessiner cette histoire pour partager l'histoire de cette start-up, le Tom San Francisco.
Si j'ai hésité à le faire?
Oui.
J'ai pas hésité. En fait, j'ai commencé cette BD à un moment donné où dans la boîte, c'était vraiment de plus en plus difficile. Et j'ai commencé à raconter l'histoire de la boîte en me disant que je n'irai jamais jusqu'au bout parce que c'était trop énorme ce qu'il y avait à dire. Mais j'ai posté sur le blog, en fait, j'en avais besoin parce qu'on avait tellement de stress et tellement... c'était tellement difficile qu'en fait, notre seule façon de... Enfin, moi, j'avais besoin d'évacuer toute cette pression. Et comme j'ai toujours dessiné ou tenu un journal où je racontais ma vie... c'était parfait comme support et j'ai dessiné. C'était au départ pour moi pour me sentir mieux. Et finalement, comme ça a plu, comme les gens ont réagi, comme les lecteurs étaient présents, ça m'a motivée à continuer. Après, il y a eu le tome 1 qui est sorti en autopublication. J'étais même pas sûre de faire le tome 2 parce que ça représentait quand même encore 250 autres pages. Et non, finalement, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Là, il ne manque plus qu'une quinzaine de pages et j'aurai fini. C'est cool.
Ce qu'il y a de fou, donc, c'est cette histoire de coloc. Et donc, c'est complètement fou. Et ce qu'il y a d'encore plus fou, c'est qu'il a fallu quelqu'un d'extérieur à vous dise que même pour la Silicon Valley, c'était absolument anormal. Donc, explique quand même comment vous avez vécu pendant cet épisode de la coloc.
Je suis pas sûre que ce soit vraiment anormal pendant un premier temps. Ce qui a joué évidemment, c'est le manque d'expérience. On avait aucune idée de ce qui se fait ou pas en Californie. Du coup, donc on faisait confiance à Geoffrey, qui est le CEO de la boîte, et qui nous disait non, mais ça se fait beaucoup, etc. Et au début, on se méfiait pas. Donc, il a dit vous allez en coloc avec deux stagiaires français qui avait 22, 23 ans, et il a dit, c'est normal, ça se fait beaucoup, c'est en mode start-up, etc., et ça ne durera que quelques mois. Et on ne s'est pas méfié, mais finalement, parce qu'il a dit, ça dure quelques mois, et après, vous aurez un meilleur salaire, et donc vous pourrez louer quelque chose à vous. Donc, on était en coloc, ce qui n'aurait pas été forcément super gênant, mais le souci, c'est qu'on était en coloc avec notre fille, et c'est pas super cool d'être en coloc en famille avec deux jeunes adultes en fait. Et en plus, comme personne n'était bien payé, personne sortait jamais parce qu'on n'avait pas les moyens de sortir. Donc eux, ils étaient tout le temps à la maison. Il y avait tout le temps l'un d'eux dans la cuisine en train d'être sur son ordi et tout ça. On avait même fini par instaurer des règles, le week-end, au moins on n'est pas dans la pièce bureau, parce que sinon il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de travailler sur les écrans. Et c'était vraiment pas évident. Par exemple, le matin, quand on déposait la petite à l'école, Adrien et moi, on se disait, on va prendre un café histoire de se réveiller et puis surtout de souffler un peu, de sortir de cette coloc étouffante. Et à chaque fois, il y avait un des stagiaires qui disait « Oh, je viens avec vous !» Donc, on l'emmenait. Et puis après, il disait « Oh, je viens avec... » Et il venait avec nous dans le café. C'était étouffant. On n'a pas eu d'intimité pendant un an. Et au bout d'un an, on a tapé du poing sur la table en disant « On ne peut plus, on craque, c'est pas normal. » Et les gens autour de nous nous disaient « En effet, c'est pas normal. » Mais on culpabilisait. On se disait « Non, en fait, on est capricieux. C'est normal, il faut faire des efforts, etc. » On était pris un peu entre les deux. Voilà, puis en plus, voilà, quand on était dans le tunnel en train de travailler tout le temps, on parlait pas vraiment assez avec des gens qui nous disaient que c'était pas normal, donc on savait pas trop ce qu'il fallait faire ou pas.
Excuse-nous, hein, on rigole parce que on entend les les travailleurs dans l'open space. Quand on commence à avoir le mal du pays, rien qu'en écoutant Hexagone, qui est quand même à ma connaissance une des chansons les moins riantes de Renaud. Est-ce que quand même ça, c'est pas le signe que quelque chose va très mal?
Alors ce que plusieurs personnes nous ont dit quand on est arrivé, c'est les femmes, au bout de 6 mois, il faut qu'elles rentrent en France pour respirer un peu, parce que sinon, il y a mal du pays qui s'installe. Donc, on s'est dit, ouais, pourquoi les femmes? C'est pas vrai, nous, c'est différent. Et on n'y a pas cru. Et en fait, ouais, c'est vrai qu'après 6 mois, c'était dur, mais après 1 an, c'était infernal. Et ouais, j'avais un mal du pays énorme, et on est rentré au bout de 1 an et demi. Ça a été vraiment... Ça a été quelque chose. C'est vrai. Voilà. En plus, moi qui adore manger, le mal du. Enfin voilà, la France, c'est quand même le pays de la bouffe, quoi. Et ça, ça manque vachement. Et un autre truc aussi qui manquait, auquel je m'attendais pas, c'est les vieilles pierres, les ruines, les villages médiévaux, les cités historiques. Voilà, le fait d'être dans un endroit ancien avec une histoire. Parce qu'ici, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment que du neuf tout le temps. Dès qu'il y a une maison qui a plus de 50 ans, ils la rasent, ils reconstruisent quelque chose. Il y a pas vraiment de... Enfin, je sais pas, c'est pas la même chose qu'on ressent.
Vous écoutez CPU, le programme Carré Petit Utile, et nous sommes avec Laurel, dessinatrice du blog BD Comme Convenu. Alors, la bande dessinée que tu publies, enfin plus exactement ton blog BD, hein, a très vite fait le tour... Et puisqu'elle a été reprise, entre autres, sur 89, sur un site spécialisé Mac et un peu à gauche, à droite, est-ce qu'elle a fait ouvrir les yeux d'autres personnes sur les deux partenaires, donc les pseudonymes Geoffrey et Luc?
Alors, j'ai pas trop moyen de le savoir. Je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé avec eux, qui nous ont écrit des mails en disant « Ah ouais, vous avez trop raison ». On a vécu la même chose, oui, ils nous ont bien eu aussi, etc. Et qui nous ont écrit par mail pour confirmer qu'en fait on n'était pas parano et que eux-mêmes s'étaient fait avoir avant, etc. Et pour, voilà, on n'a pas vraiment moyen de savoir si des personnes ont évité de travailler avec eux, parce qu'on ne peut pas vraiment avoir d'écho de ça. Mais c'est vrai que j'espère, ce serait vraiment cool qu'ils n'arrivent pas à retrouver d'autres personnes débutantes et naïves comme nous, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont tous les deux, ils se connaissent depuis 10 ans, et ils se mettent ensemble. Ils trouvent quelqu'un qui travaille dur et qui est inexpérimenté, comme c'était le cas d'Adrien, qui est très bon en tant que dev. Et ils lui disent « Non, mais ce sera un triangle. On sera trois, donc il n'y aura jamais deux contre deux ou un contre un, etc. Donc on pourra toujours avancer. » Sauf que le piège avec le côté triangle, c'est qu'eux-mêmes sont toujours d'accord entre eux. Et que, voilà. Donc la personne qui se met avec eux sera obligée d'être. Mais bon, ça marche dans plein de domaines aussi, hein, dans plein de situations. Il faut se méfier du triangle quand il y en a deux qui se connaissent et qui sont toujours d'accord.
Je suppose que pour chaque situation, les termes employés, les prénoms utilisés, chaque chose est pesée. Est-ce que vous avez fait appel à un avocat ?
Oui, on a un avocat qui est très bon et qui est en France et aux US aussi. Donc il est les deux, donc on craint rien. Et on a gardé toutes les preuves de ce qu'on dit, en fait. Parce qu'il y a eu quand même plein d'échanges de mails. On n'a vraiment pas envie d'aller au tribunal pour les attaquer pour toutes les promesses qu'ils n'ont pas tenues, parce qu'il y a plein de trucs qui étaient à l'oral, mais par contre ils peuvent absolument rien faire. Mais voilà, de toute façon ils laissent passer, et puis dans quelques semaines finalement c'est fini, hein, cette histoire. Je vais passer à une autre histoire, et voilà. Donc non, on craint pas du tout un procès qui aurait déjà eu lieu de toute façon. Et en plus, voilà, ils ne feraient jamais ça, parce qu'ils savent bien que... Enfin, ils peuvent rien dire, en fait. Il n'y a pas leur nom. Et puis en plus, je raconte ma vie. Je raconte pas... J'ai pas fait ce livre pour les embêter, eux. J'ai fait ce livre parce que j'avais besoin de le faire pour moi. Et en me disant, ce sera utile peut-être à d'autres. Et voilà, mais c'est pas une attaque. C'est pas... c'est pas un règlement de compte, je m'en fiche en fait. Puis c'est derrière moi en plus et j'ai plus de rancune aujourd'hui. Même des fois, je relis les pages et je me dis oh là là, disons que je leur en voulais tellement. Mais maintenant, j'ai plus de rancune. Hein. Surtout Geoffrey, je comprends. Son père était entrepreneur, il y a beaucoup de pression familiale. Et humainement, c'est quelqu'un de super sympa. C'est juste que dans le boulot, il est vraiment horrible. Mais c'est pas un méchant. Enfin, il y a personne qui est. Il a des bons côtés aussi, et je le montre dans la BD. Il y a plein de trucs qu'il sait faire pour lesquels il est bon. C'est juste que c'est nous qui nous sommes fait avoir. C'est en grande partie notre faute. On n'aurait pas dû. Non, j'ai aucune crainte là-dessus, de toute façon. Et puis c'est bientôt fini en plus.
Avec la question de crowdfunding, pourquoi vous avez décidé pour faire cela pour le premier tome et pas chercher une maison pour publier le tome?
D'accord. Quand j'ai lancé la première campagne pour laquelle on a décidé de faire l'autopublication, voilà, pour le premier tome, j'en étais, je sais plus, peut-être 200 pages. Et il y a des éditeurs, des grosses maisons d'édition qui m'ont justement écrit en disant on aimerait bien avoir ton livre, on va le publier, on va faire un tirage, blablabla. Et je me suis dit oui, pourquoi pas, après tout, le boulot est presque fini. Ils ont proposé des prix, mais ridicules. Enfin, ça me faisait travailler pour 2 euros de l'heure, même pas. Et quand je leur ai dit, non mais regarde, si on met le prix à l'heure, ça fait 2 euros de l'heure, comment c'est possible de proposer aussi peu, quoi. Et ils ont commencé à m'expliquer, non mais attends, tu comprends pas, cette BD, tu la fais pas pour l'argent et tout. Je fais, oh là là, d'accord.
Ouais, mais j'ai appris combien était payé une cover, par exemple, de The Amazing Spider-Man et tout ça aux États-Unis. C'est vraiment peanuts, quoi. Même quand c'est une BD éditée à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. La situation des auteurs en France, c'est peut-être plus enviable.
C'est possible, mais elle est en train de se dégrader parce que comme j'ai bossé pendant 10 ans dans la BD en France, je vois comment c'était au début et je vois comment c'est maintenant. Mmh. Et c'est d'année en année, de pire en pire. Et je vois sur ma page Facebook, mes amis auteurs, il y en a plein, ils décident d'arrêter parce qu'ils ne peuvent plus, quoi. Du coup, ça m'a énervée, en fait, qu'on me propose, juste pour donner un ordre de grandeur, je m'en fous de donner les chiffres, mais la meilleure offre qu'on m'avait faite, c'était 8000 euros pour 500 pages, c'est-à-dire 3 ans de travail. Ouais. 8000 euros pour 3 ans de travail, c'est dingue, je passe 6 heures par planche, ouais, en comptant le fait de la poster en ligne. Donc en fait, je me suis dit, ok, plutôt que de gagner ça, je pourrais plus râler sur la situation des auteurs de BD en France, donc je peux pas accepter ces conditions et après continuer à râler. Donc je me suis dit, je vais le faire moi-même parce que j'avais quand même envie d'avoir un livre. Mais je pensais pas que ça allait marcher parce que je me disais, comme la BD est gratuitement en ligne, je vois pas l'intérêt d'avoir pour les gens d'acheter le livre. J'avais besoin de 14 000 $, donc j'ai demandé 9 000 en me disant ou 10 000, je sais plus, en me disant j'arriverai jamais au bout, donc peut-être après je pourrais payer le reste de ma poche. Et en fait, je pensais pas que ça marcherait et j'étais hyper étonnée parce que les 10 000 ont été atteints en une heure. En une journée, j'ai réussi à intéresser tellement les gens que, les lecteurs, en une journée, on avait 100 000 et au bout d'un mois, on avait 300 000 $. J'étais sur un nuage complètement, quoi. Je me disais, c'est incroyable que les gens soient là à soutenir, et il y avait plein de messages bienveillants, des gens qui disaient ah ouais, bien sûr, ton bouquin ça m'intéresse, etc. Et même alors qu'il était gratuit, ils avaient juste envie de me soutenir. Et c'est lié au fait aussi que je tiens ce blog depuis 11 ans, à l'époque c'était 11 ans, et j'ai jamais rien demandé aux gens, et je faisais des BD tous les jours et je répondais à tout le monde et j'étais sur les réseaux sociaux. Donc ça a joué, enfin ce qui a joué, c'est que j'ai jamais rien demandé aux gens, j'ai toujours été disponible pour eux. Et voilà, donc du coup la première fois où j'ai besoin d'eux, entre guillemets, ils répondent présent, j'ai trouvé ça fantastique.
On est actuellement là en plein dans la levée crowdfunding pour la publication du deuxième tome. Finalement, t'es mieux préparé au succès ou tu es toujours autant surprise de la vitesse à laquelle les stretch goals tombent ?
Je suis mieux préparée. J'avais un peu peur qu'il y ait des gens qui aient pas aimé le 1, qui aient été déçus. Mais en fait, ça va parce que j'ai eu aucun retour négatif sur la qualité du livre. Le seul truc qu'on a pu, enfin sur lequel on peut s'améliorer, c'est la vitesse de livraison, parce qu'on a eu des problèmes avec les entrepôts. Enfin, comme c'était le premier livre qu'on faisait, on a fait des erreurs, je pense, d'un point de vue distribution. Mais par contre, la qualité, ça, par contre, on a fait plein d'allers-retours, de demandes de prototypes. On a été voir l'imprimeur qui est à Saint-Raphaël, pas loin. Enfin, on a vraiment travaillé sur la qualité et ça, heureusement, j'ai l'impression que c'est bien parti pour que les gens qui ont pris le 1 prennent le 2 parce qu'ils sont contents. Et donc, on a mis un pack avec le 1 et le 2 ensemble pour ceux qui ont raté la première campagne. Donc, voilà. Et on refera un retirage du 1. Mais par contre, c'est le seul moment où les gens peuvent avoir le livre, enfin l'histoire, c'est les deux livres, c'est maintenant, après ça sera fini, quoi. Il ne sera pas en librairie et il ne sera pas retiré. Donc,
Définitif, édition unique. Quoi. Et ce deuxième tome sera le dernier du coup ?
Oui, voilà, ce sera 500 pages en tout, c'est en deux tomes, en deux livres. Mmh. Et après, je passe à une autre histoire. Je raconterai autre chose dans quelques mois.
Là, sûrement. Est-ce que tu comptes...
D'avril, c'est le dernier moment pour l'avoir.
Do you think you will make an English version of your comic? Chris, fous-toi de ma gueule.
Je peux traduire?
Oui.
C'est l'accent, très très bien. Non, j'ai pas cherché plus que ça, en fait, parce que... Je pense que ça a marché en France parce que j'ai un lectorat qui est présent et avec qui je parle depuis plus de 10 ans. Mais ici, aux États-Unis, je connais pas les gens. Enfin, j'ai pas d'Américains qui me suivent. J'ai des expatriés français qui me suivent, ou francophones, ou des Québécois. C'est vrai que une version anglaise, si un éditeur américain est intéressé, je dirais oui, mais j'y connais rien. Et voilà, ce sera... S'ils s'occupent de la traduction et que j'ai rien à faire, moi, tout m'est égal. Tout me va. Mais je ne vais pas démarcher, je ne vais pas le faire moi-même.
On ne va pas spoiler la fin, sinon qu'il y a eu un dénouement heureux, puisque maintenant, vous travaillez tous les deux pour un autre employeur qui vous respecte beaucoup mieux et qui te permet en plus de continuer ton activité de dessinatrice, de bande dessinée, puisque je crois que tu continues les albums chez Glénat et chez Dupuis.
Non, bah non, plus du tout, non.
Ah bon, d'accord, ok, erreur. Erreur.
Non, c'est...
Est-ce que tu penses que si de jeunes ambitieux et talentueux veulent s'installer dans la Silicon Valley, quel conseil tu leur donnerais, toi, maintenant ?
Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on la pose souvent. En fait, vous me posez cette question au moment où nous, on se demande si on va pas partir. Disons que depuis un an, ça devient vraiment l'horreur. San Francisco n'est pas extensible parce qu'il y a de la mer autour. Et ils construisent des tonnes de buildings, de gratte-ciel, avec des bureaux, avec des logements. Donc, être sur la route, c'est l'enfer. Y a plein de gens tout le temps, partout. Les loyers ont explosé, ça a pris 30 ans cette année, et 30% cette année, 30% l'année précédente, ouais. C'est n'importe quoi. Donc pour venir ici, il faut s'attendre à travailler dur et surtout à vivre dans une coloc. Enfin, c'est clair, on peut pas vraiment, on peut plus trouver un appart à San Francisco, c'est impossible. Enfin, le moindre studio, c'est 3 000 $ par mois. C'est inabordable. Donc les jeunes, des développeurs qui viennent ici, ils ont des boulots intéressants, c'est vrai. Il y a vraiment moyen de trouver quelque chose de sympa à faire comme activité. Mais je pense pas que ce soit facile de s'installer. Ils travaillent tout le temps et ils sont dans une coloc, hein, généralement, parce que c'est trop cher. Et le coût de la vie a explosé, les courses, c'est n'importe quoi. Voilà, après, ça dépend de... Du caractère de chacun.
Oui.
j'aime plus.
Et c'est la raison que vous êtes installé à la sud de San Francisco, oui, à Burlingame.
Oui, voilà, près de l'aéroport.
Oui.
Dernière question. Avec l'arrivée à la magistrature suprême d'un entrepreneur hôtelier, Donald Trump, nommément, comment est l'ambiance actuellement? Est-ce que finalement ça se tend et vous vous dites c'est un petit peu problématique?
Je suis pas sûre qu'on soit vraiment concernés, mais c'est vrai qu'il y a des gens autour de nous qui se posent la question, alors même qu'ils ont des enfants américains ou qu'ils sont mariés à des américaines. Ils se posent la question de savoir si ça ne va pas compliquer le fait d'avoir un visa, etc. Pour l'instant, on n'a rien vu. Les gens n'en parlent pas. Ils ont tous des autocollants Bernie sur leur voiture. C'est mignon. Il n'y a personne qui soutient Donald Trump ici, je crois. Mais la Californie, c'est quand même, ça reste quand même une bulle. Et je ne suis pas sûre que ça va atteindre les gens ici. Peut-être plus dans d'autres États.
Ou un référendum d'indépendance l'année prochaine, on ne sait pas.
J'y crois pas, c'est possible.
c'est quand même la 7e économie du monde, hein, si on prend que l'État de Californie.
Ouais, c'est fou, hein, mais bon, après, il faut quand même être solidaire des autres États. Hein.
Laurel, merci de nous avoir confié de ton temps précieux et des charmants éclairages d'Hermione.
Je suis contente qu'elle ait été sage, hein, c'est cool, on a eu de la chance.
On renverra bien évidemment sur le site cpu.pm, sur tous les sites de Comme Convenu et donc sur le crowdfunding pour ceux qui n'auront pas encore participé. Dernière occasion, tout doit disparaître.
Et ouais, avant le 6 avril, ce serait super qu'on... Voilà, ce serait vraiment cool.
Voilà. Merci à toi.
Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci.